JDM. Une présentation de Marie-Monique Mboso. Bonjour Marie-Monique.
Bonjour Florence Mekki. Madame, Monsieur, bonjour, les titres du JDM.
Les risques de propagation de la bactérie et une augmentation de la douleur. L'apparition des résistances résulte du fait de l'automédication. C'est également un phénomène naturel qui a existé à la suite d'une modification des gènes bactériens résistant d'autres bactéries. Seulement voilà. Cette résistance reste mal connue du public et lorsqu'elle survient, l'on recherche des solutions peu orthodoxes, alors qu'il existe toujours un moyen de contournement médical, sauf si toutes les voies sont épuisées. C'est pour cette raison que le corps médical souhaite promouvoir la résistance bactérienne à travers une sensibilisation accrue pour mieux toucher le public cible.
Les obsèques de René Onna, ancien secrétaire général à la présidence de la République et ancien conseiller spécial du chef de l'État, c'était à Trimekagué hier dans l'Anvila au cours d'une célébration eucharistique à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. Philippe Roger Sama de CRTV Sud.
Le temps qui s'est écoulé n'a pas émoussé le souvenir de ceux qui l'ont connu et aimé. 20 ans après sa mort, l'image de René Onna reste vivante dans l'esprit de ses parents, amis et connaissances. Vincent Onna, fils aîné du défunt.
Papa était un homme rigoureux, intègre et travailleur. Dans sa vie, il a toujours été à l'appel des personnes sinistrées ou dans le désarroi.
La célébration pour le repos de l'âme de l'illustre disparu donne l'occasion au clergé d'inviter sa progéniture à assumer ce qu'il a été pour eux et la nation, à savoir un serviteur exemplaire et un prochain à l'image du bon samaritain. Abbé Steve Dominique Ngou, administrateur de la paroisse Saint-Clément de Ngouazip.
Action de grâce au Seigneur pour le don de la vie de notre papa, de notre grand-père, de notre frère, de notre ami, l'ancien ministre René Onna.
Décédé il y a 20 ans, à l'âge de 68 ans, son village natal, Trimelangue, lui reste reconnaissant pour son œuvre multiforme en faveur du bien-être des siens. Et Bolova, Philippe Auger et Sama, CRTV Sud.
Autre moment triste dans ce journal, ce sont les obsèques des 7 membres d'une famille le 26 août dernier à Ngolambélé, dans l'arrondissement de Dimako, région de l'Est. Souvenez-vous, ces 7 personnes étaient les victimes d'une intoxication alimentaire. Leur inhumation a eu lieu hier samedi. Luc Ohono de CRTV Est.
Tristesse et consternation se lisaient sur tous les visages au moment de l'enterrement des 7 corps des victimes du drame de Ngolambélé dans l'arrondissement de Dimako. Décédés des suites d'une intoxication alimentaire, après avoir consommé du couscous de maïs traité au raticide, ces membres d'une même famille ont laissé les uns et les autres sans voix. Maurice Ntémé, membre de la famille, est pleuré.
Mes enfants partent avec leur rêve. Steve, lui, il voulait être gendarme. Et sa petite sœur, elle voulait être infirmière. C'est un chagrin tellement grand.
En présence des autorités locales, au rang desquelles le sous-préfet et le maire de Dimako, et en symbiose avec les populations et élites mobilisées depuis la survenue du drame, des intentions de prière ont été élevées afin que les âmes des défunts du 26 août reposent en paix. Yves Tokamboun-Témé, maire de Dimako.
C'est la consternation, mais aussi c'est un sentiment d'espoir manifesté par la solidarité à la fois de toutes les communautés présentes à Dimako.
On dit que partir, c'est mourir un peu.
Depuis la levée des corps à la morgue de l'hôpital régional de Berthois jusqu'à leur inhumation, l'atmosphère était lourde de tristesse et les cœurs meurtris suite à cette tragédie survenue au village Ngolambélé. Luc Owono, CRTV.
À Yaoundé. Les activités de la 15e édition des matinées nationales de prière pour la paix au Cameroun démarre ce dimanche. Une marche de prière s'est tenue à Yaoundé. Elle était organisée par la Cameroun National Prayer Breakfast. Écoutons à ce sujet le révérend Jean Libom Liliquin, le président de cette organisation, au micro de Julien Gambi.
Nous sommes de Dieu, donc tout ce que nous possédons appartient à Dieu. C'est Dieu qui tient même les cœurs des rois entre ses mains. Nous avons prié et pour le président de la République et pour les autres responsabilités de l'Église, de la sécurité et autres. Donc en fait, c'est pour que le pays se porte bien par l'intercession de cette élite que nous sommes.
Une note en sport pour refermer ce journal. Les Lions Indomptables ont une autre séance d'entraînement à 14h cet après-midi au stade Omnisport de Yaoundé, séance à huis clos, au cours de laquelle l'entraîneur sélectionneur Marc Brice va peaufiner son plan de jeu. C'était en vue du match contre le Zimbabwe mardi prochain à 13h08 à Yaoundé. Fin du JDM présenté par Gilles-Claude Mbongetunzi. Dimanche midi se poursuit.
Dimanche midi.
Je respire, je revois mes espoirs d'avant. Je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme nu au début, au tout premier cri. Je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Je reprends, réapprends à être vivant. Chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus beau, quel que soit le prix.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau.
Conversation avec mon voisin. Capture des faits de société sous forme d'éphémérides.
Et voici venu le temps de converser avec notre voisin. Les faits de société sous forme d'éphémérides. Avons-nous suffisamment fait preuve d'empathie pour les sinistrés de la falaise de Tchan? Nos deux voisins pensent que les Camerounais, en tant que communauté, ont une tendance à soutenir du bout des lèvres ceux qui sont dans le malheur. Ils évoquent aussi cette semaine notre résilience face aux réalités extraordinaires de la vie dans nos grandes villes. Voici Conversation avec mon voisin, une chronique de Valérie Dikos Oumaro.
Cela peut paraître évident et la palice n'aurait pas pu mieux dire. Il y a une différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Oui, cela est évident, mais je me lance quand même dans la dangereuse et risquée aventure de vous redire la différence entre les deux. Ce qui est ordinaire, c'est ce qui est conforme à l'ordre normal, à ce qui est habituel. En 2024, avoir de l'eau, de l'électricité, des routes, dans une grande ville, vivre dans un cadre propre, agréable, se soigner, ce sont des choses, des réalités ordinaires. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui sort de la règle, de l'usage normal. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui n'est pas courant, ce qui est inhabituel, bizarre, curieux, étonnant et même insolite. En 2024, ne pas avoir de l'électricité, avoir des routes parsemées de pièges à éléphants, ne pas avoir de l'eau courante dans une grande ville, vivre entouré d'ordures, avoir du mal à se soigner, ce sont des choses, des réalités extraordinaires. Loin de moi, l'idée tordue de citer le nom d'une ville. Vous pouvez le faire, vous, à vos risques et périls. Sans vous dire dans quelle ville nous sommes, mon voisin et moi pensons que nous sommes dans la dimension extraordinaire. Quand je le rencontre lundi, il me demande si j'entends les cris de joie dans les quartiers au retour de l'électricité coupée depuis des heures, voire des jours. Les gens crient exactement comme des supporters qui acclament une performance de leur équipe dans un stade. À vrai dire, mon cher voisin, l'ordinaire, c'est l'absence. L'extraordinaire, la présence. Quand l'inhabituel devient normal, nos repères se perdent et nous avec. Mardi, mon voisin me raconte cette vieille et récurrente querelle au marché Mokolo à Yaoundé. Il y a de nouveaux bâtiments. Les commerçants boudent et continuent de vendre sur le trottoir. Les autorités de la ville multiplient les derniers délais pour libérer les trottoirs. Quelqu'un a-t-il déjà demandé aux commerçants quel type de marché ils aimeraient avoir? Lorsque la solution ne résout pas votre problème, ce n'est pas une solution. Mercredi, le drame de la falaise de Tchan, où un glissement de terrain a enseveli plusieurs personnes, interroge le niveau d'empathie de notre communauté. Notre indifférence, parfois, peut donner l'impression d'abandon. Des familles sont sur les lieux, attendant désespérément qu'on retrouve le corps de l'un des leurs. Combien sommes-nous à aller les assister, leur apporter à manger, leur donner de l'eau? Nous ne savons pas le faire, reconnaissons-le. Le malheur est régulièrement abandonné aux seuls concernés. On peut questionner la réaction des autorités, c'est vrai, mais on peut surtout interroger notre manque d'empathie que nous exhibons souvent et partout. Jeudi, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le maire de la commune de Ngoumou dit que le lycée de sa commune est une poubelle. Mon cher voisin, il parle de Ngoumou, mais c'est une réalité nationale. Nous avons du mal à garder les structures publiques propres. Oui, nous pouvons accuser les autorités, mais la pauvreté ne justifie pas la saleté. N'allez surtout pas dans les toilettes d'une structure publique, c'est la mort assurée. Vendredi, mon voisin se souvient qu'il y a quelques mois, Yaoundé annonçait à grand bruit une campagne contre les vieux taxis. Résultat, des mois plus tard, les vieux taxis sont toujours autant, sinon plus nombreux. Si au lieu de traquer les vieux taxis, on mettait en place un vrai système de transport des masses. Là aussi, mon voisin me rappelle que des annonces avaient été faites. Vous avez dit inertie ? Votre semaine a sans doute été meilleure que la nôtre. À dimanche prochain.
Merci Valérie. À dimanche prochain.
Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
La terre, notre maison commune, se réchauffe. Après une nouvelle année de chaleur record et d'événements météorologiques extrêmes, la population suffoque. Aucun pays n'est à l'abri des bouleversements climatiques. Au Cameroun, la pollution atmosphérique atteint des niveaux préoccupants avec des particules fines dépassant 192 mg par mètre cube pour le seul cas de la ville de Yaoundé. Pour faire de notre planète un espace vivable, il se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis une semaine, les experts venus des quatre coins du monde cherchent des solutions durables pour contrer une dégradation environnementale alarmante portée par l'augmentation des gaz à effet de serre. Cette problématique mondiale aux répercussions locales a des conséquences désastreuses sur la biodiversité, la santé des populations et les écosystèmes. La terre à chaud, dites-vous, Coralie, Laetitia et Mini.
On les appelle dioxyde de carbone, méthane, ozone et même gaz fluoré. Tous des composés indispensables à la régulation du climat par l'effet de serre. Seulement, l'augmentation excessive de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère au fil du temps, du fait des actions humaines, a entraîné l'apparition de nombreuses menaces, au premier rang desquelles le réchauffement climatique. Professeur Jean-Michel Onana, expert des questions environnementales et de la biodiversité.
Depuis la révolution industrielle, nous avons donc un réchauffement climatique qui est anthropique. C'est cela le problème. Lorsque, avec une émission de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre beaucoup plus grande, il y a une accélération de l'effet de serre, de la température et donc du réchauffement climatique.
Une augmentation des températures, véritable menace environnementale à fort impact sur les écosystèmes terrestres, marins et même sur les activités agricoles.
Les gaz à effet de serre du fait du réchauffement climatique ont un effet catastrophique sur les forêts. Les saisons sont perturbées. On a remarqué, selon les météorologistes, que les pluies sont plus courtes mais plus abondantes, que les températures sont plus élevées et c'est cela qui fait les inondations. Lorsqu'on regarde la carte phytogéographique du Cameroun, nous verrons que les températures sont beaucoup plus élevées à l'extrême nord, moins élevées au nord. Elles sont douces dans la Damawa à cause de l'altitude, mais elles sont un peu plus élevées aussi au sud. Ce qui signifie donc que, par rapport aux océans, étant donné que l'augmentation de la température provoque la fonte des glaciers, il y a augmentation du niveau de la mer, ce qui va provoquer la disparition de certaines îles qui sont au niveau de la mer.
Une dégradation des écosystèmes qui, par effet domino, fait souffrir la biodiversité avec pour effet direct la disparition de certaines espèces vivantes. Patrice Abesolo Amougou, ingénieur agronome.
C'est toutes les espèces qui seront affectées. Que ce soit dans l'eau, que ce soit sur le sol, toutes les espèces sont affectées. Les élévations de température au niveau des eaux font que les poissons migrent beaucoup à la recherche des zones qui sont plus favorables. Et c'est la même chose sur le sol avec les animaux. Les animaux migrent toujours vers des endroits plus favorables et quand ces endroits se font de plus en plus rares, ces espèces sont en train de disparaître.
Un tableau bien sombre des affres de ce réchauffement climatique induit par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, auquel vient s'ajouter le volet sanitaire avec la recrudescence des maladies respiratoires. Professeur Bertrand Hugo Batchou, médecin spécialiste des maladies pulmonaires.
Ces gaz vont augmenter donc la température de la Terre et le réchauffement climatique va participer à augmenter la pollution atmosphérique comme dans un cercle vicieux. Cet ensemble aura un effet sur la santé de façon globale. Sur la santé respiratoire, c'est d'abord les maladies allergiques, notamment l'asthme ou la rhinite allergique, encore appelée rhume. C'est aussi les infections respiratoires, la bronchite chronique, le cancer du poumon, mais aussi d'autres maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque. Il est important de noter que ces polluants atmosphériques contribuent pour environ 7% des décès au Cameroun.
Toutefois, les experts restent optimistes. Le combat est loin d'être perdu, car en effet, de nombreuses initiatives peuvent permettre de réduire ces polluants atmosphériques d'abord au plan environnemental grâce à des pratiques telles que la décarbonisation et la lutte contre la déforestation. Professeur Jean-Michel Onana.
Les solutions prioritaires, c'est déjà de décarboner, passer aux énergies renouvelables qui utilisent d'autres sources que les énergies fossiles. Deuxièmement, la déforestation doit être maîtrisée parce que ce sont les forêts qui régulent à la fois les températures et à la fois la pluviométrie.
Sur le plan sanitaire, les médecins appellent à des politiques nationales plus strictes pour réduire les polluants tout en sensibilisant les citoyens à adopter des gestes simples pour se protéger. Professeur Bertrand Hugo Batchou, médecin spécialiste des maladies pulmonaires.
La prévention, elle est d'abord collective par des mesures relevant des pouvoirs publics avec notamment une politique nationale de réduction de l'émission de ces gaz à effet de serre, mais aussi à titre individuel, ces patients doivent éviter l'exposition aux polluants atmosphériques ou alors utiliser des masques comme ceux que nous connaissons.
Des mesures préventives afin d'éviter une crise écologique irréversible à condition que les États du monde réduisent de 43% leur émission de gaz à effet de serre d'ici 2030, un défi global qui exige une mobilisation collective afin de protéger les générations futures et ainsi restaurer l'intégrité des écosystèmes.
Dimanche midi, l'invité de la rédaction.
Les pays pollueurs peuvent-ils s'entendre sur un nouvel objectif de financement climatique au moment où des experts émettent des avertissements de plus en plus alarmants sur l'accélération du réchauffement climatique ? La question reste d'actualité à Bakou, en Azerbaïdjan. L'invité de dimanche midi est un diplomate, expert en écologie politique internationale et certifié en finance climatique. Le docteur Brice Dundjok relève la portée stratégique des assises de la COP29 pour l'atténuation des effets des changements climatiques dans les pays en développement comme le Cameroun et l'intérêt d'une meilleure action prévisionnelle au plan local pour faire face aux catastrophes naturelles. Docteur Brice Dundjok dans un entretien mené par Larissa Engono.
Docteur Brice Dundjok, bonjour et bienvenue à Dimanche Midi.
Je suis content d'être là.
Les risques climatiques demeurent criards au Cameroun, les faits les plus récents étant notamment l'éboulement meurtrier à la falaise de Tchan et la série d'inondations enregistrées à l'extrême nord. L'Afrique est-elle condamnée à subir ?
Il faut déjà noter qu'il n'y a pas que l'Afrique qui subit ces catastrophes naturelles. Vous êtes certainement au courant qu'actuellement en Europe centrale et dans beaucoup d'autres pays d'Europe, il y a des inondations qui font rage. Et donc le changement climatique dans ces manifestations est un problème global. Seulement, le Cameroun et l'Afrique en souffrent plus parce que le niveau de développement de nos pays ne nous permet pas de faire face ou d'amortir le choc que de telles catastrophes pourraient imposer à nos espaces sociaux. Donc, dire que l'Afrique est condamnée, non, je ne dirais pas. Le problème, c'est que l'Afrique n'a pas les moyens de faire face à ces catastrophes. L'Afrique n'a pas les moyens de financer sa résilience. C'est d'ailleurs pour cela que, chaque fois qu'elle se retrouve dans les cadres internationaux de négociation climatique, elle plaide beaucoup plus pour des financements en faveur de sa résilience. Donc peut-être que si au niveau international quelque chose peut être fait dans ce sens, l'Afrique pourrait avoir les moyens de se sortir de cette situation.
Et au sujet des cadres internationaux de négociation en finance climatique, la COP29 est en cours à Bakou, en Azerbaïdjan. Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde et donc un important puits de carbone pour la régulation du climat. Comment comprendre ce laxisme-là des plus grands pollueurs dans l'octroi de finances climatiques aux pays en développement ?
La raison principale, c'est que ces cadres internationaux sont des lieux où s'expriment des intérêts, parfois divergents. Il faut comprendre que dans la lutte contre le changement climatique, les pays développés ont intérêt à encourager exclusivement, peut-être pas, peut-être que j'exagère, mais les pays développés mettent plus l'accent sur la réduction des gaz à effet de serre. Parce qu'en réduisant les gaz à effet de serre au Cameroun, en préservant nos forêts, c'est le monde entier qui en bénéficie. Et ils s'efforcent d'exporter cet effort-là en prenant en charge l'implication des pays en développement dans cette réduction des émissions. Pourtant, pour les pays d'Afrique, pour un pays comme le Cameroun, le plus urgent, c'est l'adaptation. Or, lorsque je construis une digue pour contenir des inondations potentielles, ça ne sert pas la France qui a financé la construction de cette digue. Vous voyez où se trouve le problème. Donc, financer l'adaptation ne leur rapporte pas les bénéfices directs. Ils n'ont pas un intérêt direct à financer l'adaptation. Vous constaterez que dans la structuration des financements climatiques internationaux en Afrique, les pays développés financent plus l'atténuation que l'adaptation. Donc la réticence dont vous parlez, c'est en matière d'adaptation. Et c'est parce que les pays développés n'y trouvent pas suffisamment d'intérêt à le faire.
Et l'on a suivi ces travaux en cours en Azerbaïdjan, en concert de dénonciation des présidents africains et d'autres pays en développement quant à ce problème de flux financiers internationaux climatiques. Que peut la diplomatie pour inverser la tendance ?
La diplomatie, il faut déjà le dire, doit pouvoir agir en amont, c'est-à-dire négocier des alliances avant la COP et prêter des positions pertinentes qui pourront être soutenues pendant l'événement. Mais il faut déjà le préciser, personne ne rentre de la COP avec une enveloppe d'argent pour financer son effort de lutte contre le changement climatique. La COP est un cadre où les pays en développement s'attellent à convaincre les pays développés de s'impliquer un peu plus dans la prise en charge des efforts de lutte contre le changement climatique, notamment le financement. Donc au mieux, ce qu'on peut obtenir à la COP, c'est une promesse des pays développés qu'ils vont augmenter leur apport de financement dans la lutte contre le changement climatique. Donc la diplomatie à ce niveau-là devrait pouvoir agir à travers une bonne préparation pour pouvoir élaborer une position, je peux dire, soit au niveau africain ou même au niveau national, avec toutes les parties prenantes qui y sont, élaborer une bonne position et se donner les moyens de la défendre une fois à la COP. Or, cela dépend des capacités logistiques sur les sites de négociation. Cela dépend de la disponibilité de l'expertise nationale et régionale au niveau africain. Cela dépend des moyens financiers. Je me rappelle encore, à la COP qui s'est tenue en Écosse, il y a 3 ou 4 ans, si je ne m'abuse, les coûts de logement étaient très élevés. Alors, dans ce contexte, si on veut déployer un arsenal diplomatique, il serait très difficile pour des pays comme les nôtres de pouvoir marquer de leur présence un tel événement et donc de pouvoir défendre leur position. Quand on sait qu'en face, les pays développés viennent avec des délégations très grandes, composées de personnes qui ont des connaissances pointues sur les éléments à négocier.
Au sujet des différents préludes à ce genre d'assises internationales, on se souvient que le ministère des Forêts et de la Faune organisait le 12 septembre dernier un atelier sur le renforcement des flux financiers climatiques. Pour le Cameroun, il s'agissait d'harmoniser la position du Cameroun. Cela nous amène à la question de la synergie. Est-ce qu'il y a une véritable synergie entre les parties prenantes que vous évoquiez plus tôt, le ministère des Forêts, le ministère de l'Environnement, le ministère des Relations extérieures?
Synergie, oui. Mais synergie à renforcer tout de même, parce que on doit reconnaître que de gros efforts sont faits pour y aller de façon concertée. Actuellement, à Bakou, le MINREX, le MINEBDET, le MINFOF et d'autres sectoriels sont représentés. Cela traduit une volonté de développer une position concertée et d'aller la défendre lors des COP. Mais c'est une synergie à renforcer, et à renforcer notamment dans l'entre-deux COP. C'est-à-dire que, en préparation à la prochaine COP, après Bakou, ce sera à Brasilia, il faudra que cette synergie se manifeste à travers des travaux communs qui viseront à élaborer des positions communes, des positions concertées au niveau national, de façon à ce que le moment venu à la COP, que les parties prenantes présentes à la COP aient les moyens de la défendre. Donc, un travail de préparation à la base peut renforcer l'efficacité de cette synergie. Et je souligne que le MINREX a un rôle important à jouer en amont. Je me réjouis déjà qu'il prenne au sérieux que cette sectorielle soit impliquée dans ces démarches de lutte contre le changement climatique lors des COP.
Il est donc impératif d'agir de manière concertée.
Il est impératif.
Docteur Brice Donjok, des fonds verts, mais pour quelle utilisation?
Je suppose que vous parlez des fonds verts à l'international.
À l'international, c'est-à-dire oui. Les fonds verts que nous sollicitons tant à l'international ne vont pas arrêter les inondations, ne vont pas arrêter les glissements de terrain et tout ce qu'on constate comme pic de chaleur ou alors fort taux de pluviométrie. À quoi devra-t-on spécifiquement consacrer les fonds escomptés pour réduire les risques climatiques?
Lorsque une inondation survient, est-ce que le système de santé est capable de faire face à tout ce qui pourrait naître comme épidémie, le choléra par exemple? Est-ce que les familles peuvent être relocalisées? Est-ce que lorsqu'il y a un pic de sécheresse, est-ce que les routes sont capables de supporter les 40 degrés sans se fissurer et donc causer un problème de communication entre deux régions liées par ces routes? C'est cet ensemble-là.
Est-ce qu'on peut faire face à la pénurie d'eau?
Est-ce qu'on peut faire face à la pénurie d'eau en cas de sécheresse extrême? Est-ce qu'on peut maîtriser toutes les conséquences qui peuvent être générées par les événements climatiques extrêmes? C'est ça l'adaptation. Si on peut, alors on est capable, c'est que notre capacité de résilience est suffisante.
Et c'est là qu'il faut travailler.
Et vous verrez que c'est ça qui intéresse plus et est plus urgent pour les pays africains. Aux États-Unis, lorsqu'un cyclone passe, le système d'assurance, les agences nationales ont déjà mis tout en place pour résoudre le problème une fois que le cyclone est passé. On n'en entend pas parler plus d'un mois après. Chez nous, si un tel événement arrive, ce sera une catastrophe qui peut même être une raison de décréter une journée de deuil national. Vous voyez, le niveau de résilience est fonction du niveau de développement. C'est à cela que pourront servir les fonds escomptés. Au lieu de se focaliser sur les fonds verts disponibles sur le plan international, j'aime à dire, je ne le dirai jamais assez, qu'il est déjà question pour nos pays d'épuiser les potentiels nationaux en matière de financement de l'adaptation. Je parle de l'implication du secteur privé, je parle de l'implication, c'était plus en tant que personne physique, individu, capacité à prendre en charge de telles mesures, je parle de l'implication du secteur financier, je parle même de la prise en compte du risque climatique dans les politiques de développement national. C'est-à-dire que le gouvernement, lorsqu'il décide d'investir dans une infrastructure, qu'il intègre dans la construction de l'infrastructure le risque climatique, de sorte que l'infrastructure puisse être résiliente à tout choc naturel d'origine climatique. Il y a aussi des aménagements en termes de système de gouvernance. J'aime souvent faire mention de ce que les systèmes de gouvernance décentralisés sont plus aptes à intégrer dans la prise en charge des questions climatiques les populations les plus vulnérables. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement local reçoit des fonds, il est plus apte que le gouvernement central à identifier les zones les plus exposées à ce type de risque. Je suis sûr que si on avait opéré de la sorte à Tchang, on aurait très vite identifié et limité les dégâts qu'on y a observés.
Et donc, si je comprends bien, il s'agit de pouvoir permettre aux communes, c'est-à-dire au plan local même, de réagir efficacement et directement dès la survenue d'un sinistre.
Tout à fait. Et il faut leur donner les moyens de pouvoir elles-mêmes se déployer sur le plan international pour mobiliser les financements, tant au niveau international, mais aussi les opportunités de financement qu'on peut trouver sur le plan local. L'idée est ici d'impliquer les communautés décentralisées dans la lutte contre le changement climatique parce qu'elles sont plus au fait du risque que cela constitue pour leur communauté.
Et ce sera le mot de la fin, docteur Brice Dundjok. Je rappelle que vous êtes expert en écologie politique internationale et expert certifié en finance climatique. Merci d'avoir répondu aux questions de la CIRTIM.
Je vous en prie. Merci de m'avoir reçu.
Dimanche midi, les coulisses et la scène.
Escale marquée ce dimanche à Pouma dans la Sanaga Maritime à l'occasion de la 6e édition du festival Mboglia qui démarre le vendredi 22 novembre prochain. Le festival traditionnel socio-culturel du peuple Bassa Batimpo se prépare activement autour d'une thématique centrale, Mbimba. Solidaires d'un même patrimoine, les Bassam Pobati du Cameroun font du festival Mboglia une rencontre fraternelle où l'on apprend à se connaître et au cours de laquelle les leviers de la tradition sont mis ensemble. C'est ce que relève le président général de l'association Mboglia, Sa Majesté Mbombok Malet Manjami, s'entretient avec Nathalie Mvogo.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Sa Majesté Mbombok Malet Manjami, bon dimanche.
Bonjour à tout le monde et bon dimanche à tous.
Le festival Mboglia, le regroupement culturel des Bassam Pobati, est annoncé. Les dates sont calées du vendredi 22 au samedi 30 novembre prochain. Où en êtes-vous en termes de préparatifs, de mobilisation de la communauté?
Il faut rappeler d'abord que c'est la 6e édition de notre mythique et grandiose festival qui réunit les Bassas, les Mpo, les Bati, ce qui représente quand même à l'échelle nationale du Cameroun environ 7 millions de personnes. Le peuple Bassa, Bati, Mpo se retrouve dans 4 régions du Cameroun, le littoral, le centre, le sud et le sud-ouest.
Un grand rassemblement en perspective.
Absolument. Un grand rassemblement, bien évidemment, grande préparation pour que les structures d'accueil soient conséquentes pour accueillir autant de monde. Le festival se tient à Pouma, en Sanaga Maritime, parce que c'est l'épicentre du pays Mboglia. Pour vous dire, Pouma est pratiquement équidistant entre Douala et Yaoundé.
Yaoundé, oui.
Entre Edea, le pays Babimbi. Donc c'est vraiment en termes géographiques au centre de notre pays. Et maintenant, après 5 éditions itinérantes où nous allions de localité en localité, le comité d'organisation, sous la diligence du bureau exécutif de Mboglia, s'est entendu pour que le festival soit désormais localisé à la ville de Pouma. Et puis Pouma, parce que la première édition du festival Mborlia s'est tenue il y a 28 ans maintenant, pratiquement. Le premier festival qui a eu un succès à nul autre égalé jusqu'à ce jour. Pour moi, c'est pour tous ces bons souvenirs et pour moi, c'est aussi pour faciliter la présence de tout le monde.
Et Mbimba, c'est le thème retenu pour cette édition 2024. Vous avez dit qu'on en est à la 6e édition, Mbimba.
La langue Bassa et le peuple Bassa ont déjà donné beaucoup au Cameroun. Si on reste simplement au niveau de la langue, nous avons donné Manyan, le fer. Le frangin, la frangine.
Qu'on retrouve dans le dictionnaire camerounais.
Nous avons donné le dernier qui est que même à l'étranger, en dehors du Cameroun, on reprend, c'est Himle. Himle qui est la foi, ouais. La conviction, la détermination pour la cause juste jusqu'au bout du bout. Là, Mbimba, c'est aussi un référent de l'identité Bassa. Mbimba, c'est cette énergie fondamentale, cette force, cette efficience, ce rayonnement. Notre peuple pense qu'il est temps aussi de se réveiller, de donner le meilleur et le maximum de lui-même. D'abord, pour l'épanouissement des Bassa Batimpo, pour le développement de notre localité, mais pour apporter une contribution vaillante et vibrante à l'intégration nationale du Cameroun et au développement de notre pays.
Quelle est la valeur symbolique d'une telle rencontre? Vous vous retrouvez, c'est festif, c'est déjà un plaisir de se retrouver tous ensemble comme ça. Quelle est la valeur symbolique d'une telle rencontre?
La première, c'est la fraternité, célébrer la fraternité et la citoyenneté, puisque la tradition et l'évolution des temps modernes doivent vivre ensemble et vivre en bonne intelligence. La valeur symbolique d'un événement comme celui-là, c'est d'abord montrer aux uns et aux autres que nous sommes des frères, mais rappeler aux uns et aux autres aussi que nous sommes citoyens camerounais. On se rencontre pour fraterniser, mais on ne va pas s'en tenir simplement à boire et à manger du maquereau. Il y aura ça. Il va y avoir la fête au plus haut niveau. Belka Tobi sera là pour l'ouverture, Xmalea sera là pour la clôture. Et tout le long des 9 jours, nous allons illustrer l'identité Bassa Batimpo dans tous ses registres. Mais se rencontrer à un tel niveau, à cette périodicité, c'est aussi faire preuve d'intelligence, faire preuve de discussion, d'échange.
Il y a un côté hard avec des séminaires de réflexion.
Oui, il y a 6 journées thématiques. La première, c'est la journée des familles. Il y a la journée des langues, la journée de la diaspora, la journée du Mbok, la journée de l'économie, la journée de la femme. Le peuple Bassa a une responsabilité toute particulière. Déjà, il est présent dans beaucoup d'endroits et de localités sur le continent africain.
Sa Majesté Mbok, quelles sont les attentes d'un président général, d'un festival comme celui-là, un festival qui réunit des millions de Camerounais, Bassa, Mpo, Bati? Quelles sont vos attentes?
La première, c'est que nous apprenions à nous connaître, à évoluer ensemble, que nous nous rendions compte que nous sommes solidaires d'un même patrimoine et que nous inventions là les moyens de le valoriser ensemble, parce que cette valorisation va permettre à chacun de s'épanouir en tant qu'individuel et nous permettre aussi de mettre ensemble les leviers du développement. Mborlia, c'est pas la tradition. Mborlia, c'est la société telle qu'elle évolue. Mais Mborlia travaille avec 6 principaux piliers. Le Mbok, les familles, les élites, forcément, les dignitaires du culte et tout ce qui se rapporte au développement. Mais la tradition aussi de façon dynamique. Et les jeunes doivent être outillés à partir de leur héritage, à vraiment s'adapter à l'évolution des temps, avoir fière allure à côté de toutes les autres civilisations et toutes les autres offres culturelles de par le monde.
Sa Majesté Mbok Maletman Djami, président général du festival Mborlia, le regroupement culturel des Bassa Mpo Bati, merci et bon dimanche.
Je lance donc en ce dimanche béni un appel à tous les ressortissants Bassa Batimpo, où qu'il soit, que le 22, nous nous retrouvions tous à Pouma. attention, venez avec vos amis, venez avec vos connaissances, parce que Lobasa, Lobati Lumpo l'est pour lui-même, mais il l'est aussi avec toutes les autres composantes du Cameroun pour la fierté de notre cher et beau pays.
Merci.
Dimanche midi, la balade dominicale.
Reportage du dimanche à la découverte des grottes de Mora dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord. C'est un site à forte valeur touristique. Un trésor y est caché sous terre. Dans les entrailles des cavernes souterraines des grottes de Mora, c'est le coup de cœur du dimanche. Adamu Moussa, CRTV, extrême nord.
Une merveille au cœur des monts Mandara dans la région de l'extrême nord. Un paysage rocailleux qui fascine et donne à voir des montagnes habilement superposées. Ce sont les grottes de Mora dans le Mayo-Sava. Ici, chaque montagne a son histoire et son mystère.
La grotte là représente la maison des gorilles parce que c'est là où ils se reposaient et ils se cachent là ici. La population passe à côté mais les femmes ne peuvent pas passer.
Pour Tra, c'est juste une pierre qui apparaît comme la lune. C'est ici que les enfants passent leur journée.
Les petites montagnes ici, on appelle Oulidia. Et les cailloux ici, on appelle Kourtra. Il y a le moment. Si tu peux sortir le sable là, ça monte en haut. Après, s'il n'y a pas l'eau, ça vient plus bas.
De l'extérieur, la température aussi entre 30 et 35 degrés. Un climat qui contraste avec celui enregistré à l'intérieur de ces grottes. Ici, ce sont des cavernes et de passages souterrains impressionnants. Barthélémy Diaz, natif de Mora.
Il y a comme des chambres dedans et que quand les hommes viennent, surtout pendant le moment chaud, les gens viennent se reposer parce qu'il y a vraiment la fraîcheur un peu dedans. Il y a de l'eau au bas. À tout moment, il y a de l'eau, même les bétails, là, même les parents viennent nager ici. C'est comme des chambres à l'intérieur. De temps en temps, il y a vraiment l'association ou bien l'équipe du village qui vient surveiller si les gens ne se cachent pas dedans.
Au temps des guerres, c'est là où les décisions se prenaient pour décider de la date, du jour, quelle communauté attaquait. Donc, en quelque sorte, c'est la salle de conseil.
Les grottes faites des cavernes et des passages souterrains impressionnants font la beauté de cette localité, présentée comme un véritable carrefour commercial du fait de sa proximité avec le Nigeria.
Il y a les Nigériens qui viennent, les gens de Wanaru, de Maroua même quelquefois, surtout en saison sèche, ils viennent acheter les arachides, de pommes de terre, de maïs, de soja.
Je suis venu avec mes marchandises, je viens avec mes biscuits, les chongom, les kling pour faire mes besoins.
À ces multiples merveilles dotées par la Dame Nature, la population greffe un riche répertoire culturel et la viabilisation de ce site touristique singulier sur les hauteurs des monts Mandara est au cœur des préoccupations. Chetima Amidou, maire de la commune de Mora.
Le passage pour arriver à ce site constitue également un lieu de découverte. C'est pourquoi nous pensons viabiliser cela. Nous pensons, n'est-ce pas, essayer de mettre des refuges parce que c'est un lieu de randonnée. Vous avez également les vestiges de la forteresse construite par le sultan du Wandala pour empêcher l'invasion de Rabat. Et donc nous avons un vaste programme pour cela. Nous avons d'ailleurs à cet effet saisi le ministre en charge du tourisme pour lui présenter, n'est-ce pas, cette situation et solliciter un appui pour pouvoir rendre ce cadre agréable. Mais à notre niveau déjà, nous comptons d'abord arranger la route qui mène à cet endroit et puis disposer des ressources humaines pour pouvoir servir de guide à l'intérieur. Parce qu'il y a des endroits où vous entrez, vous ne pouvez pas facilement ressortir.
Les touristes et populations locales, fascinées par ces montagnes superposées et ce paysage pittoresque, s'attellent au quotidien à aller sur les hauteurs de ces montagnes. Marwa Adamu Moussa, CR TV.
Dimanche midi, sport.
Cannes Maroc 2025, fin de suspense dans le groupe J. Après le Cameroun, le Zimbabwe a décroché sa qualification. Le deuxième ticket de cette poule malgré le match nul avec le Kenya, un but partout. Ce résultat rapproche davantage les Warriors des Lions Indomptables au classement. L'écart des deux unités entre les deux sélections ajoute du piquant à leur confrontation directe de ce mardi 19 novembre au stade Omnisports de Yaoundé. Cameroun contre Zimbabwe, une affiche sur fond de revanche pour le Zimbabwe face au Cameroun en quête de consolidation de son bloc équipe et de son leadership dans le groupe J. DM Sport, Samuel Billon. Bonjour Samuel.
Bonjour et bon dimanche Florence. Aucun match de l'équipe nationale est à négliger, quel que soit l'adversaire en face. Et plus singulièrement, le 11e face-à-face de l'histoire des confrontations entre le Cameroun et le Zimbabwe est chargé d'enjeux. Pour les Lions Indomptables, il est question de ne céder aucun périmètre de leur terroir aux guerriers zimbabwéens requinqués par leur qualification à la CAN 2025 et qui rêvent donc de se hisser à la première place du groupe J. Alain-Georges Bitti, président exécutif de l'Observatoire de gestion du football africain.
Les Lions Indomptables doivent démontrer leur rôle d'équipe locomotive à travers de bonnes prestations qui font rêver davantage les fanatiques, les supporters accrochés aux belles prestations de cette équipe nationale de football à travers le monde entier. C'est aussi l'occasion qu'a ce staff des Lions Indomptables de consolider le bloc équipe. Question de rassurer les opinions sur la forme actuelle de cette équipe nationale de football.
Match de défi donc pour le staff technique camerounais pour clôturer ses éliminatoires en apothéose.
Pour l'entraîneur, il est tout à fait indiqué d'achever cette phase en beauté par une victoire si possible en y associant la manière de ne pas perdre des places et des points au prochain classement FIFA du 28 novembre prochain. L'autre enjeu est de rassurer les fanatiques et supporters de cette équipe nationale de football sur les échéances à venir. Gagner serait intéressant pour l'établissement complet de la confiance et la stabilité des résultats retrouvés.
Au-delà de la qualification déjà acquise depuis la quatrième journée au mois de septembre, les Lions font face à un autre défi, celui de terminer à la première place du groupe J sans aucune défaite. Christian Mbala-Mekongo, consultant football.
Poursuivre la série d'invincibilité, terminer à la tête de cette poule afin justement d'être retenu comme tête de série lors de la cérémonie du tirage au sort. Par conséquent, dans des conditions de préparation plus optimales que celles contre la Namibie, les Lions vont devoir présenter un visage plus reluisant, avec un jeu plus chatoyant, plus cousu.
Seulement deux unités séparent le Cameroun, 11 points, et le Zimbabwe, 9 points. Point au classement général. Emmanuel Doumbé-Bosso, entraîneur de football.
Ce serait une chose que de ne pas accepter d'être deuxième, quand bien même tous les deux nous sommes qualifiés. Il faut rester au-dessus de la mêlée comme nous l'avons été depuis le début de ces éliminatoires.
Pas de risque à prendre pour le 11 entrant. Les joueurs doivent plus que jamais être appliqués.
Le coach, même pour le match contre la Namibie l'autre jour, avait dit qu'il n'y a pas de petit match, il n'y a pas de match pour lequel il va, n'est-ce pas, se laisser battre ou bien pour le plaisir ou la demande des uns et des autres qu'il change un peu de son ossature. Il a refusé catégoriquement. Il vaut mieux jouer de façon ferme, utiliser même l'équipe la meilleure qui soit. Et dès qu'on aura, n'est-ce pas, assuré l'essentiel, à ce moment, on peut penser à mettre d'autres joueurs qui vont venir tenir la dragée haute jusqu'à la fin du match.
Fort de l'importance de cette rencontre, il est fort à parier que le technicien belge reconduise le bloc qui donne le plus de satisfaction, avec sans doute des réaménagements, surtout dans le compartiment médian. Christian Balame Congo.
Au Segmark Bridge, il est très attaché à son 4-3-3 modulable avec André Onana dans les buts, une défense à 4 autour de Christopher Wu, Michael Ngandungandui, Jackson Tiatoua et Nuo Tolo. Son milieu de terrain à 3 autour de Martin Onla, Frank Zambouanguissa et Nak l'absence de Carlos Baliba. Il a la possibilité avec Ivan Neyou, le joueur de Leganés, une ligne d'attaque autour de des milieux de couloir très offensifs, Mouminga Malo, Christian Bassogok ou à défaut Kevin Koudou, le capitaine Vincent Aboubakar avec une possibilité, soit avec Franck Magri ou à défaut avec le jeune Patrick Soko. Donc au niveau de son banc de touche, il a de belles pièces de rechange.
Valeur intrinsèque des joueurs par poste de jeu, expérience et compétitivité, Marc Brice dispose de tous les atouts pour faire un match correct face au Zimbabwe.
En termes de jeu, nous aurons droit à une équipe des Lions un peu plus équilibrée avec la mise en place d'une organisation de jeu qui favorisera la bonne expression des talents. On aura l'obligation de faire un match correct à Yaoundé à la maison avec l'appui du 12e joueur. On sait également que ça joue beaucoup sur les côtés, ça combine très bien. Un jeu fait de courtes passes en triangle pointe vers l'avant avec parfois beaucoup de vivacité au niveau des flancs, mais également parfois très déterminant au niveau des actions de corner offensif, coup franc offensif. On l'a vu la dernière fois lors du match retour face au Kenya avec le jeune Boris Eno, dont le coach a beaucoup d'estime et dont il parle beaucoup en bien, qui peut également être l'une des solutions pour ce match face au Zimbabwe. Donc dans l'ensemble, je pense que on a beaucoup d'anxiété à se faire. Il sera question de faire un match plein, il sera question de faire un match à la maison, de se faire plaisir devant le public pour pouvoir terminer justement en beauté sa dernière journée de qualification pour la CAN Maroc 2025 et psychologiquement se projeter au mois de mars à l'effet de pouvoir à nouveau engager les matchs pour la Coupe du Monde États-Unis-Canada 2026.
Ce mardi 19 novembre, les Lions Indomptables vont livrer leur 51e match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football au stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé pour un bilan documenté de 39 victoires, 11 matchs nuls, 107 buts marqués contre 18 encaissés. Pas de défaite donc pour les Lions Indomptables en fin d'année depuis 1973 pour le compte des qualifications à la Coupe d'Afrique.
Midi, édition du 17 novembre 2024. C'était une présentation de Florence Mucu. Mise en onde, Jean-Mathieu Benoum, Chrétien Foucault. Régie d'antenne, Adamou Dan Assabé. Radio assistée par ordinateur, Deren Engele, Olivier Dimonier. Réalisation et post-production, Rose Coco, Yannick Ayama. Coordination, George Colon, Valérie Dikos Oumarou, directeur des rédactions radio. Supervision, Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio. Supervision générale, Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Vous pouvez réécouter cette édition cette nuit lorsqu'il sera minuit 15 minutes ou sur Internet à l'adresse www.crtv.cm. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. À bientôt sur cette antenne.
Hey, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures.